La terre, c'est sacré. Hein.
Aujourd'hui, on est agriculteur, on est des pouilleux. Non, c'est plus ça.
Faire, faire.
Oh, il est magnifique.
La Terre Ferme, un podcast des étudiants du QEJ.
La pluie du matin n'arrête pas le terrain.
Épisode 5, tout un fromage. Saint-Jean-Lachant, 287 habitants.
Il est 7h, on vient d'arriver devant une exploitation de 50 vaches laitières. C'est une exploitation un peu particulière, parce qu'ici on fabrique du fromage sur place, à la ferme. Ça s'appelle l'artisou, c'est un fromage typique de la Haute-Loire. Et aujourd'hui, on va rencontrer Amandine, la salariée, qui va nous expliquer comment est fabriqué ce fromage. Là, on est dans la cave. Hein.
On est dans la cave, c'est ça. Donc là, vous voyez, donc il y a cette fameuse bourre. Donc nous, on va les frotter comme ça pour enlever un peu cette bourre.
C'est quoi la bourre, du coup ?
Donc la bourre, vous voyez, c'est le poil de chat. Ça, c'est le fromage qui est en train de s'affiner, enfin, normalement. Quoi.
Il fait sa croûte.
Voilà, vous avez tout compris. Donc à partir de là, après, on a une caisse d'artisou. Je sais pas si vous voyez dessous. Voilà. Alors en fait, c'est le petit acarien qui affine le fromage. Donc, le petit acarien qui affine le fromage, c'est cette poudre. Et dedans, c'est, comme vous pouvez voir, là, on ne le voit pas à l'œil nu, mais au microscope, on voit que ça bouge. Et c'est ce petit acarien, la petite bête, qui, on va le frotter sur le fromage, comme ça, en fait. Et une fois qu'ils sont frottés, on les met sur des planches, comme ça, qu'on va retourner deux fois par semaine. Et après, ça finit par faire un fromage fini comme celui-là. Là, à vue d'œil, on est vraiment... La cave n'est pas chargée. Hein. Là, s'il doit y avoir 500 fromages.
Vous pensez que c'est important, ça, de transformer son lait ?
Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est... Pour moi, c'est l'avenir. Aujourd'hui, l'agriculteur, déjà, c'est une fierté parce que vous revendez quelque chose que vous faites vous-même. On n'est pas non plus piétiné par la marge des grandes surfaces ou même les laiteries. Il faut dire la vérité. Il faut que j'y aille.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là ?
On va faire donc, ce qui s'appelle la mise en moule.
Tu peux rajouter le saut ?
Ouais, j'arrive, on prend tout de suite.
Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous pouvez un peu expliquer ?
Alors, là, on a mis à cailler, c'est-à-dire que le lait, on le met à chauffer à environ 30 degrés et on enlève le sérum pour garder uniquement le caillé, ce qui fera le fromage. Alors moi, je suis Diane Fabre, je suis une des deux associées du GAEC. Voilà, l'autre associée, c'est Fabien, mon mari. Voilà. Moi, c'est une reconversion. Au départ, j'étais préparatrice en pharmacie. Et du coup, quand mes beaux-parents ont pris leur retraite, j'ai pris la suite, voilà, pour ne pas laisser perdre le fromage. Vraiment, c'est une passion.
Il y a 10 ans, à Saint-Jean-Lachant, ils étaient 25 à faire de l'artisan. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Chaque année, 4% des exploitations laitières de Haute-Loire disparaissent et il y a plusieurs facteurs à ça, le vieillissement des agriculteurs, le manque de repreneurs ou la reconversion des exploitations. Depuis les années 80, le prix du lait n'a que très peu augmenté, les matières premières, elles, ont explosé. Aujourd'hui, le cours du lait est de 330 euros la tonne, c'est 33 centimes le litre, il est donc crucial pour certains agriculteurs de valoriser leur lait. Pour le couple, cela passe donc par la fabrication de fromage à la ferme, une activité qui fait vivre 4 personnes, au lieu d'une seule, sans le fromage.
La transformation fromagère, c'est à peu près 50% du temps sur exploitation. 50% pour l'élevage et ouais, les cultures et 50% pour la transformation. Quand on a notre comptabilité, on voit bien que c'est un revenu supplémentaire et que ça fait vivre notre exploitation. Nous, l'exploitation est dépendante de la transformation fromagère.
Mais Fabien et Diane comptent en plus obtenir une appellation d'origine. Un lait AOC ou AOP permet aux producteurs de vendre leur lait à un prix bien plus intéressant. Un lait AOP Beaufort se vend à 700 euros la tonne. C'est deux fois plus qu'un lait non labellisé.
Quand on va vendre en grande surface, voilà, on se bat pour le prix. Et si on a une AOP, après, on n'aura pas à se battre pour le prix. On dira, vous achetez un produit de qualité, reconnu. Et voilà, c'est le prix, c'est temps. Et puis voilà.
Ça fait combien de temps que vous vous battez pour obtenir une AOP
À se battre, à pas vendre des termes aussi forts. Après, il faut monter un dossier. Nous, le souci qu'on avait, voilà, l'INAO nous ont dit, l'INAO, c'est ceux qui gèrent les AOP. Ils nous ont dit, voilà, il faut prouver la notoriété de votre fromage. On est remonté jusqu'au Ouais, jusqu'au XVIe siècle à peu près. En fait, tu vois, il fallait payer les impôts au pape qui habitait à Avignon. Et donc, et en Haute-Loire, on payait la dette en fromage. On ne fait pas juste du fromage pour gagner notre vie, on vend une histoire aussi. C'est valorisant, quoi.
Daniel Ricard est spécialiste de ces questions. Il est professeur de géographie à l'université de Clermont-Ferrand et auteur d'une thèse sur les montagnes fromagères.
Les appellations d'origine sont régies par des cahiers des charges, c'est-à-dire des conditions de production. Au niveau des producteurs, il peut y avoir le recours à une race locale. Il y a surtout l'alimentation. Il y a le climat, le type de sol. Alors après, le fromage aux artisans, pour le moment, il est mal, comment dire, il est mal défini. C'est-à-dire que les usages sont pas stabilisés d'une ferme à l'autre. Le milieu naturel n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'on va en faire dans la margerite granitique comme sur le Devès ou le Mézinc volcanique. Et donc tout ça, pour le moment, ça fait que c'est un peu difficile à accéder à un vrai cahier des charges d'appellation d'origine parce que le terroir est mal défini.
Bonjour monsieur.
Oui.
Malgré cet AOC qui se fait encore attendre, les artisans de Fabien et Diane ont leur petit succès. Comme tous les samedis depuis 11 ans, Diane se rend au marché du Puy-en-Velay pour vendre ce drôle de fromage aux acariens.
J'aime proposer mon produit, quoi. Enfin, voilà. Là, on a le retour directement, quoi. Si les clients sont pas contents, la semaine d'après, ils reviennent, ils le disent. Mais bon, le plus souvent, ils disent quand même, ah, on s'est régalé. Heureusement.
Et est-ce que vous avez remarqué un changement dans les clients de profil, peut-être ?
Complètement, complètement. Au tout début, c'était beaucoup des personnes âgées. Et maintenant, de plus en plus sur le marché, on voit des jeunes, des familles, en fait, avec des petits-enfants. Je pense que les gens regardent vraiment ce qu'ils mangent. Ils ont vraiment envie de voir les producteurs, d'acheter des produits locaux. Bon, nous, en plus, on est en bio, donc voilà. Mais ouais, de plus en plus, la clientèle se rajeunit, en fait, et se diversifie, oui.
On sait que c'est de meilleure qualité. Et puis bon, voilà, c'est du local. Voilà. On essaie d'acheter à peu près local.
Votre intérêt, du coup, pour ce fromage
de famille, le terroir, la nature, le naturel.
C'est pour ça que vous achetez directement au producteur.
C'est ça, le savoir-faire, c'est ça.
Bon week-end, merci, au revoir.
Le changement de mode de consommation, la mise en avant du local, on les retrouve aussi dans la boutique de la laiterie gérante.
À Rôle, 598 habitants.
On essaie le plus possible d'acheter un circuit tout court. Ça évite les transports, etc. Alors quand on vient ici, parce que nous on habite les Landes, donc on est venu passer le week-end là, et quand on monte, ben, je fais le plein, entre autres.
Merci, au revoir.
Bonjour, Didier Gérinte, je représente la laiterie Gérinte, ou laiterie des Monts Saint-Gelais. Donc, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1947 par mes grands-parents, Jules et Madeleine.
Donc là, ils font un bleu qui se rapproche du bleu d'Auvergne.
On n'est dans aucune zone AOC. Donc il a fallu qu'on cherche des solutions pour arriver à valoriser notre lait. On a fait ça en multipliant les gammes de produits. C'est vrai qu'on a une gamme qui est très très large. Dans la même usine, on va faire du lait UHT, du beurre, des fromages à pâte persillée, des produits frais, des fromages à pâte molle. Dans le milieu laitier, il faut arriver à valoriser au mieux tout le lait qu'on transforme. Donc nous, on essaye de mettre le plus possible en adéquation le volume de lait qu'on collecte avec le volume qu'on est capable de vendre à un prix correct, en essayant de valoriser au mieux en produits de montagne. Et ça nous a amené, en plus de nos magasins de vente d'usine, à nous développer en montant des magasins de vente en direct. Et là aujourd'hui, on en a 24. On essaye de rester quand même quart sud-est, quoi. C'est une zone où la Haute-Loire et la Haute-Ardèche parlent aux gens.
Pour pouvoir vendre aussi le terroir, quoi.
Voilà, c'est ça. Nous, on a la chance d'avoir presque 30% de notre chiffre d'affaires en vente en direct. Donc, on n'est pas toujours en train de batailler sur les prix sur nos magasins, et ça garantit une rémunération correcte aux producteurs. On va être légèrement en dessous d'un prix du lait AOC, mais on va quand même être bien au-dessus d'un prix du lait standard. En moyenne, l'année dernière, je pense que le prix du lait standard devait être à 33 centimes du litre, toute qualité confondue, et nous, on était à 35. On a intérêt de travailler main dans la main avec nos producteurs, parce que moi, j'ai pas vocation à travailler du lait que je ferai venir de Normandie ou des plaines de l'Est. Donc moi, il faut du lait de montagne que je travaille sur place. Ici, vous voyez, on est à 1000 mètres d'altitude et on collecte en moyenne notre lait à plus de 1000 mètres d'altitude aussi. Donc moi, il me faut du lait local pour... Après, si c'est pour aller acheter du lait de plaine et pour faire du lait UHT de premier prix, ça m'intéresse pas non plus. Je pourrais le faire, mais c'est pas là où j'aurai une grosse valorisation et c'est pas dans mon intérêt.
Tence, 3098 habitants.
Les vaches laitières sont sur cette partie-là. Là, c'est des vaches qui sont en préparation vélage. C'est les prochaines qui vont véler, celles-là.
Jusqu'en 2004, Jean-Julien Degas travaillait avec Nestlé, année où la multinationale s'est désengagée de la collecte de lait dans la région. Depuis, il est le président des producteurs de la laiterie artisanale.
On a 110 vaches laitières, voilà, plus les génisses. Sur notre secteur géographique, sur la périphérie du Mézin, j'ai envie de dire, eh ben, Gérin était très très important parce que c'est le seul collecteur. Bon, ben c'est le collecteur exclusif, c'est en plus quelqu'un avec qui on a des relations qui sont, je dirais, très bonnes, notamment en termes de prix du lait, puisque aujourd'hui il nous permet d'obtenir un prix du lait qui est quand même supérieur aux grands groupes. Ceux qui sont allés chez Gérin, c'était par choix. Non, pas parce qu'à ce moment-là, Gérin n'avait pas un différentiel de prix qui était forcément favorable par rapport aux autres entreprises. Hein. C'était parce que certains ont cru bon d'avoir une entreprise locale. À la fin, j'ai envie de dire que les derniers qui n'étaient pas chez Gérinthe, ils ont vu que finalement, ils avaient tout intérêt à conserver une entreprise sur le territoire. Et... Il y a une négociation qui est beaucoup plus facile, je pense, que dans des groupes beaucoup plus gros, parce que la chance qu'on a, c'est que déjà, c'est la proximité, on y est tout de suite. On négocie directement avec le PDG. Et c'est quelqu'un qui connaît bien son métier. C'est quelqu'un qui est capable de remplacer un de ses salariés s'il en manque un. Et c'est une relation qui, je pense, est beaucoup plus facile que dans des groupes beaucoup plus gros où celui qui négocie, c'est au final jamais celui qui paye. Hein ? Si vous voyez ce que je veux dire.
Comment expliquer qu'ils mettent un peu plus la main au portefeuille que d'autres ?
Pour moi, il a tout intérêt. On est sur une collecte, sur une zone difficile, avec des secteurs qui sont en altitude. Il communique sur une image du local. S'il veut continuer de communiquer là-dessus, il faut qu'il ait des producteurs. On a une moyenne d'âge des producteurs qui doit être, qui a passé les 50 ans, c'est certain. On n'a pas tant de jeunes que ça. Sa collecte, elle risque très probablement de diminuer. Elle va diminuer. Par contre, elle diminuera que moins si les producteurs sont mieux rémunérés. Parce que malgré tout, le nerf de la guerre, c'est quand même le résultat qu'on peut avoir à la fin du mois et à la fin de l'année. Et la capacité qu'on a à faire vivre nos entreprises. C'est quand même l'avenir de notre secteur qui est en jeu et qui en dépend. Quoi. Voilà.
La laiterie Gérinthe aurait-elle trouvé la solution ? Pour Daniel Ricard, ce modèle est en tout cas viable.
L'expérience montre que c'est un modèle viable. Gérinthe est celui qui a le système le plus vertueux, on va dire, parce qu'il y a bien une laiterie, un bassin de production autour et une transformation dans ce bassin de production. Le problème, c'est que dans la Haute-Loire, il n'y en a qu'une de ces PME. Il n'y a que Gérante. Donc, ça veut dire que le modèle, il n'est pas reproductible. Par contre, c'est vrai que depuis 10-15 ans, on constate que ces PME, elles ont de plus en plus leur place et que d'ailleurs, il se crée un nombre significatif de laiteries artisanales un peu partout en France.
C'était Tout un fromage, un podcast de Léa Giraudot et Philippe Noisel, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.